à Pise, tombe droite ou penchée? Autre question, est-ce que la face sous la tour est mouillée quand il pleut? Il pleut sur Pise, on est sur la place des Miracles, Piazza dei Miracoli. Devant nous, la tour se dresse un peu penchée. Vous pensiez bien qu'on n'allait pas aller à Pise sans vous parler de la tour de Pise. Ça paraît tout à fait évident, on ne peut pas passer à côté. Si on vient ici à Pise, c'est le symbole du centre de l'Italie. Alors nous, aujourd'hui, on va vous parler de la tour de Pise, mais un peu différemment. On va essayer d'apprendre de nouvelles choses. On marche sous la pluie, il y a une foule de parapluies de toutes les couleurs, parce que les touristes sont quand même là, on est en juillet. Il y a la tour tout au fond, on voit des gens qui sont déjà en train de se balader en haut. Elle est vraiment penchée, hein, c'est impressionnant. Et puis à gauche, alors il y a toute une série d'autres bâtiments, il y a un dôme, il y a une église, parce qu'en fait la tour c'est le campanile de la cathédrale qui est juste devant nous. On a rendez-vous avec Giampiero Lucchesi, qui est un pisan, qui a écrit l'Almanach Pisan en italien, l'Almanacco Pisano, et qui a passé 40 ans à travailler ici, du côté de la tour de Pise. Donc on suppose qu'il en sait pas mal sur la tour, et sur tout ce qui entoure la tour. Il pleut sur Pise, mais on vous envoie quand même des bons baisers de Pise. Hein, Mirko ?
Plein de bons baisers de Pise, de la place des Miracles.
Bon baiser de Pise, Mélanie Croubalian.
Je pense que c'est elle. Vous êtes elle, Elena ? Ah, bonjour.
Bonjour, enchantée.
Voilà, on est arrivé dans un café à Pise avec Elena. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir Giampiero Lucchesi. C'est Elena qui va traduire.
C'est un parapluie.
Si vous voulez les parapluies, moi j'en prends pas parce que de toute façon, c'est trop compliqué.
Un ombrello.
Ma con l'ombrello.
Ou si vous voulez ouvrir, si vous voulez appeler l'ombrello.
Okay, si, il pleut, alors vous pouvez l'ouvrir, il pleut.
Mais on va là-bas, on
oui.
Commence à marcher,
oui.
D'accord.
Allons-y. Mais c'est fou comme elle penche, hein.
Ouais, je dérive encore vers je ne sais quel remords. Il y a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Assis là, j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Non, 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 ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par la lune, pas les idées. Ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disent chaînes. I never feel the same. Par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disent chaînes. never feel the same. Ondulé, par-ci par la lune, pas les yeux bien installés, disent Shane. Ondulé, par-ci par la lune, pas les yeux bien installés, disent Shane. I never feel the same. I never feel the same. Ondulé, par-ci par la lune, pas les yeux bien installés, disent Shane. I never feel the same.
Alors nous voilà dans la rue, juste devant la tour de Pise, qui penche toujours autant sous la pluie de juillet. Et oui, il pleut aussi en Toscane en juillet, ça arrive. Je suis avec Elena Pinori, qui est guide autorisée ici à Pise, et Monsieur Gianpiero Lucchesi, qui est alors une autorité, une mémoire vivante de cette ville de Pise et de la tour de Pise, avec lui et son épouse, qui va aussi nous aider à ramener ses souvenirs à la vie. Là, on se dirige vers la maison de Monsieur Lucchesi, là où il est né. Et il n'habite plus là, mais c'est là qu'il a grandi. Voilà, on passe la grille. Attention, la flaque.
L'ultime due à destra.
La première maison que M. Lucchesi a habité ici sur la place est celle au fond à gauche. Et à l'âge des 10 ans, on leur a donné l'appartement ici à droite, les premiers en haut, les deux étages.
À destra.
Alors son appartement correspondait aux deux premières fenêtres à droite, au troisième étage.
Ah bah dites donc, vous aviez une belle vue sur la tour hein, à ce moment-là.
Dans la fenêtre.
Vous voyez la tour depuis la fenêtre.
La tour.
Il a pris une photo depuis sa fenêtre pour montrer la première chose qu'il voyait le matin quand il ouvrait les volets de sa fenêtre. Donc il a ses documents aussi.
Alors, Monsieur Lucchesi, vous êtes pisan, vous êtes né à Pise, vous avez grandi ici. On vient de voir vos maisons, vos deux maisons. Donc la première, c'était le petit bâtiment ocre en haut, à droite. Et aussi, hein, je pense qu'on voyait la tour aussi depuis ce bâtiment. Puis ensuite, à 10 ans, vous avez déménagé dans celui-là.
Oui, si, sono stato qui nel 54.
J'ai habité dans la seconde maison jusqu'à 1954, quand je me suis mariée pour la première fois.
Mio padre ha cominciato a lavorare qui a 16 anni.
Mon père a commencé à travailler ici à 16 ans.
Qu'est-ce qu'il faisait votre père comme travail?
Ah, inizialmente doveva essere operaio, era un aiuto degli operai. Et puis, il est devenu custode.
D'abord, ils aidaient les ouvriers dans l'entretien de la place. Et après, il est devenu gardien de monuments.
Et votre grand-père, il travaillait aussi pour la tour, pas du tout?
Et son nom, que cosa faceva per la tour? Il sonnait les cloches de la tour penchée, mon grand-père.
Ah! Vous alliez avec lui quand vous étiez petit?
Non. Perché nonno, quand il est mort, il est trop piccolo. Il est mort, il y a 6 ans quand il est mort.
Alors, en fait, je n'ai jamais aidé mon père parce que j'avais 6 ans quand il est mort, mais j'ai pris, disons, la relève, sa relève.
Le grand-père.
Oui, du grand-père un peu, en aidant les sonneurs des cloches qui est venu à sa place. Et quand j'habitais ici et que j'étais toujours disponible, j'ai monté avec ce monsieur pour sonner les cloches. Et c'était vraiment très très dur parce qu'elles étaient bien lourdes.
C'est lourd, ouais. Et puis il faut monter toutes ces marches en plus, hein.
Sì, io ne sapevo anche di più perché il campanaio faceva mi va a comprare le sigarette e io ero giù.
En fait, j'ai monté même plus que ça parce que le sonneur des cloches ne me disait pas va sonner les cloches s'il te plaît, mais il me disait tu vas acheter mes cigarettes s'il te plaît. Donc j'arrivais vraiment jusqu'au sommet pour faire tout son travail.
Et puis mi faceva fare la guardia la sera per quando faceva la rivista per sapere che non rimanesse nessuno dentro. Mm-hmm. Si lui, lui lo sa. Sì. Okay.
Et de plus, il m'a demandé de faire les derniers contrôles les soirs avant de les fermer. Avant de fermer la tour les soirs à clé, il devait contrôler qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Mais là, il ne s'agissait pas seulement de l'intérieur, mais vous voyez de l'extérieur aussi.
Parce il y a les balcons là.
Voilà, il y a des balcons et les gens sortaient et souvent se cachaient dehors et restaient dans la tour toute la nuit. Et notamment, là, c'était l'habitude de, disons, de jeunes couples de fiancés qui faisaient, en italien, dit la fuitina. Ils s'enfuyaient de la maison avant les mariages pour ne pas être trouvés des parents. Ils se cachaient à l'extérieur de la tour. Donc, les pauvres, ils montaient dans la journée pour sonner les cloches. Et les soirs, ils montaient jusqu'au sommet pour surveiller qu'il n'y avait personne dedans. Mais ils faisaient aussi le tour de tous les étages à l'extérieur pour voir s'il n'y avait personne.
On voit bien la tour, là, il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 balcon, hein, on peut appeler ça comme ça, avec des colonnes tout autour. On voit bien la tour de Pise, on l'a bien dans, dans l'œil. Et puis là, vous avez déjà trouvé des couples de fiancés quand vous faisiez la tournée ?
Si, qualche volta, e le diceva si chiude, vedi, andate fuori.
Il m'est arrivé, mais il fallait leur dire on ferme, il faut sortir.
Ils obéissaient ?
Qualcuno si diceva devo ancora visiter, ho pagato, devo andare sopra. Dice non, non ho visto niente.
Certains disaient qu'ils avaient payé, qu'ils devaient encore monter jusqu'au sommet, mais lui il devait dire non, non, maintenant on ferme, il faut sortir.
Et vous, avec votre fiancé, vous alliez où ?
Moi, in tanti posti.
Mais jamais sur la tour ?
Non, non, mai.
C'était le travail, la tour, en fait.
Voilà, jamais avec ma fiancée.
La tour que je connaissais, era plus scura. Era, dicevano, era sporca, col tempo, no? La pioggia et tout.
Je vous signale que là, la tour, elle est splendide, elle est blanche, complètement nettoyée depuis à peu près 2 ans. Mais quand j'étais ici, quand je vivais, quand je travaillais ici, elle était plus sale, sport, comme on disait. Moi, je l'aimais plus comment elle était à l'avance. Hein? D'autant plus que cette saleté protégeait ces pierres et faisait comme une barrière, d'après moi, contre une pollution encore, disons, future éventuelle. Il faut dire que comme ça, on a enlevé cette protection et, d'après moi, on lui a enlevé aussi un peu de vie, un peu de mémoire.
Un peu de son âme. C'est vrai que là, elle a l'air neuve, en fait, la tour. Elle a l'air comme des nouvelles chaussures qu'on vient d'acheter et qui sont trop blanches et trop belles et qu'il faudrait les salir un petit peu pour qu'elles aient l'air portées. Hein, vous êtes d'accord, Elena ?
Oui, tout à fait. Moi aussi, je passe très, très souvent à côté de la tour, évidemment grâce à mon travail. Et c'est vrai que quand on l'a revue toute blanche comme ça, on était un peu étonnés parce que vraiment, ça choquait un peu par rapport aussi aux autres monuments. Mais si on pense qu'elle était comme ça, au niveau, disons, esthétique, fin 1300, premières années 2400, ça nous fait vraiment un saut en arrière dans les temps. Et ça touche.
Gian Piero.
Anna ha raccontato quella storia dell'alluvione quando vennero quegli americani sulla barca.
Sì.
Gli racconto.
Ok, sì, sì, gliela puoi raccontare.
Io dunque vidi, era la finestra là, e c'era qui, era l'Arno era venuto di fuori, il fiume aveva allagato tutto perché in città l'Arno è chiuso da dei muri, no? Che contengono l'acqua. Sì. Siccome l'hanno occupato 45 giorni qui dentro in città, c'erano gli americani di là dell'Arno e i tedeschi erano qui. Cosa è successo? Quando la città era distrutta completamente.
Oui, en fait, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pise, malheureusement, était beaucoup endommagée. Pendant 45 jours, il y a eu des batailles entre les soldats américains qui étaient partis sud de la du fleuve Arno, les Allemands qui étaient encore ici. Et en fait, ils avaient détruit tous les ponts et même les murs des protections du fleuve. Donc, en fait, avec les premières pluies du mois de novembre, le fleuve avait exondé et envahi la ville jusqu'ici à la place de la cathédrale. Et Jean-Pierre était à sa fenêtre, il a vu arriver depuis la rue d'où nous sommes arrivés ici une camionnette des Américains qui étaient tous habillés avec des, comment dire, maillots en caoutchouc. Et donc un sorti du moyen de la voiture, disons, il a commencé à marcher dans l'eau
avec de l'eau jusqu'au torse.
Oui, qui est arrivé jusqu'au torse. Et quand il est arrivé à côté de la tour, en fait, il a cogné contre quelque chose et s'est rendu compte qu'il avait un obstacle. Il a bien passé de les dépasser, mais il ne savait pas qu'autour de la tour il y a les vides, il y a les catins de la tour. Donc en fait, il a plongé complètement dans l'eau. Ses collègues étaient tous épouvantés. Ils sont arrivés en secours. Et lui qui était à la fenêtre, qui prenait plaisir à voir tout ça.
Vous étiez en train de rigoler à votre fenêtre. Hein?
Non, era interessante questa la finestra, perché qui da questa strada veniva una corrente di acqua che portava di tutto, mobili, animali morti, c'era di tutto, un continuo, attraversava tutto e poi usciva qua dalla porta.
Pour moi, c'était curieux d'être penché à la fenêtre parce qu'en fait, cette rue avait été transformée dans un torrent, dans un fleuve.
Et l'acqua entrava dentro e portava via tutto.
Parce que toutes les maisons avaient été détruites à cause des bombardements, donc l'eau entrait dedans et en sortant, elles emportaient des meubles, disons des verres, des choses des maisons, mais aussi
des animaux.
Des animaux morts. Donc ils voyaient passer tout ça et à l'occurrence, voilà, il a vu les soldats qui ont plongé dans l'eau.
Questo succedeva nel 44, a novembre. E la città fu liberata il 2 settembre. Quindi era due mesi.
Tout ça s'est produit au mois de novembre 1944 et la ville avait été libérée au mois de septembre 1944. Donc c'était à peu près deux mois, on avait eu encore le temps de faire aucun travaux pour restaurer la ville.
On retourne tout de suite à la tour de Pise, juste après cette information urgente.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Genève-Lausanne, le trafic est fortement perturbé entre l'échangeur du Vengeron et Coppet en direction de Lausanne suite à un accident. Il faut compter jusqu'à 15 minutes de retard sur ce tronçon. Sur l'axe Lucerne-Chiasso, on compte 3 km de bouchons entre Amsteg et le portail nord du tunnel du Gothard en direction du Tessin. L'attente correspondante est d'une demi-heure environ. Et du côté tessinois, les colonnes s'étendent sur 4 km entre Quinto et le portail sud, soit 40 minutes d'attente environ. En France voisine, sur l'axe Genève-Aoste, un temps d'attente de 3/4 d'heure est annoncé au péage français du tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie.
Che ore sono tardi, non per me. Nessuno ad aspettarmi, che male c'è, sai che penso il contrario sempre, anche di me, ma ora so che nulla stupirà questo cuore a metà, prendo un senso contrario, mi perdo tra i fori. Gelità, prendi le cose al volo, prendile perché quello che è andato è perso e tocca a me ora. So che nulla stupirà questo cuore a metà, prendo un senso contrario, mi vivile, puoi invertire il senso, credici, cogli l'istante che muore, sei più di quello che tu credi, perditi un po' tra le mie vie e non restare a girarti intorno, prendi il tuo senso contrario.
fait un temps épouvantable, on entend l'orage au-dessus de nos têtes, là on est courageux de rester là sous la pluie, enfin on a des parapluies, tout va bien. Alors, on est devant la tour, là, Giampiero Lucchesi. Vous êtes là avec nous, vous êtes un vrai Pisan, vous avez grandi à Pise, devant la tour, vous aviez un appartement aux premières loges. On voit depuis ici, là, on est devant l'entrée de la porte de la tour, et on voit aussi votre appartement sur la gauche, dans une jolie maison, couleur ocre, ces belles couleurs toscanes. Ça, c'était votre maison entre 10 et 22 ans. Celle où vous êtes né, elle est juste là à côté. C'est les maisons des gens qui travaillaient pour la tour, puisque c'était le cas de votre père. C'est votre cas, vous avez travaillé aussi toute votre vie pour la tour.
Si, certo. J'ai lavorato fino a 42 anni, prima della pensione.
J'ai travaillé ici 42 ans jusqu'à l'âge de la retraite. C'était 1993.
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la tour de Pise?
Per me è una cosa che l'ho conosciuta da quando ho aperto gli occhi, da piccolo. È una cosa che io mi ci sono affezionato a tutti i monumenti.
Disons que pour moi c'était assez normal parce que j'ai grandi ici, donc je l'ai vue chaque jour, elle faisait partie de ma vie quotidienne. Mais je me rendais quand même compte que j'étais privilégiée parce que, en fait, tandis que les autres enfants des autres quartiers devaient chercher des endroits où aller jouer au foot, faire une course, nous, on avait les droits de le faire ici. Bon, parfois, c'était, comment dire, on nous regardait un peu des travers, mais quand même, on tolérait tout ça parce qu'on était les enfants des gardiens de la place de la cathédrale. Et quand je voyais arriver notamment les étrangers, ils étaient peu nombreux, pas comme aujourd'hui, mais ils arrivaient par les trains, par des très belles voitures. Je me disais que s'ils venaient ici, dans cet état de richesse, ça signifiait que l'endroit valait vraiment la peine. Donc j'ai porté de l'affection pour la place et pour la belle tour que j'avais toujours en face de moi.
Vous jouiez vraiment au foot, là, sur les pelouses qu'on voit autour de nous ?
Fondo, dietro il battistero. Poi quando veniva il guardiano, il capoguardiano, ci rincorreva un pochino. Anzi, una volta mi ricordo che vennero le guardie della città, i vigili urbani.
En fait, on jouait un peu en cachette, on se mettait tout au fond de la place derrière le baptistère. Et quand les gardiens arrivaient, on s'est donné la fuite en courant. Mais un jour, la police municipale a organisé un piège, donc elle nous a entourés. Et pour se sauver, il a fallu courir. Et moi, j'ai pris la route pour Lucca, vers San Giuliano. Mais l'un de ces policiers s'est mis derrière moi avec son vélo. Et moi, j'ai couru. Et lui, poursuivait. Mais à un moment, j'ai perdu le souffle. Donc j'ai dit, bon, je me rends. Et l'autre a dit, mais bon, je croyais pas que tu arriverais jusqu'ici, hein? Félicitations. Donc c'était pas vraiment facile que de jouer au foot sur la place.
Et quand il pleuvait, vous jouiez pas à l'intérieur du dôme, j'imagine, hein?
Non, absolument.
Comme aujourd'hui. Votre premier souvenir de la tour, c'est quoi?
Il primo ricordo forse mio nonno che raccontava che suonavano le campane. E aveva delle cinghie che veniva qua la sera a casa e le portava per ungerle.
En fait, ses premiers souvenirs de la tour sont liés à son grand-père qui était sonneur des cloches de la tour. Et il se rappelle que le soir, quand il rentrait à la maison, il apportait, si vous voulez, les ustensiles pour sonner les cloches. En fait, c'était comme des sangles, des cordes en cuivre qu'il devait toujours entretenir régulièrement, jour après jour. Et après qu'il avait fait tout ça, il les prenait par la main et l'apportait avec lui à l'osteria pour boire un petit coup. Et ça, c'était très important parce que les copains du grand-père, les copains de l'osteria, c'était ceux qui aidaient les grands-pères à sonner les cloches quand il fallait sonner pour la fête, pour un deuil, pour des choses importantes, donc longtemps. Et il aimait beaucoup ça, contrairement à sa grand-mère, parce qu'à l'osteria, il avait droit à un petit bonbon avec de la liqueur à l'intérieur. Donc en fait, il a vécu la tour à travers de son grand-père.
On va passer devant votre maison, juste un petit peu plus près pour la voir, ça va? Hop là!
L'idée de te croiser fait son chemin.
Je ne pense qu'à ça.
Nos envies nous mènent plus loin.
D'ailleurs, j'ai des envies d'ailleurs. Bon baiser d'ici, murmure de Berlin.
J'entends ta voix.
Destin croisé, fantôme lointain. D'ailleurs, j'ai des envies d'ailleurs.
Au verso de nos cartes postales, de Paris ou de La Havane. Derrière nos phrases les plus banales, une seule idée en filigrane.
Tant qu'il est encore temps, je t'élanque tant que je t'ai.
La ville qui ne dort pas, fait peu pour moi.
Sauf dans tes bras.
La Dolce Vita, j'aime mieux ça.
D'ailleurs, j'ai des envies d'ailleurs.
J'ai choisi de rester au pied en attendant des jours meilleurs.
Je finirai bien par rentrer d'ailleurs de mes envies d'ailleurs.
Au verso de nos cartes postales, quand les mots font des ricochets, derrière nos phrases les plus banales, une seule idée, la même idée. Tant qu'il est encore temps, je t'ai l'encre, tant que je t'ai. Toujours, toujours l'amour, ça rime, c'est vrai, mais qu'en français, tu sais, les chemins du retour nous paraissent toujours les plus courts. Au vert de nos cartes postales, quand les mots font des ricochets, derrière nos phrases les plus banales, une seule idée, la même idée. Tant qu'il est encore temps, je t'ai l'encre, tant que je t'ai. Tant qu'il est encore temps, je t'ai l'encre, tant que je t'ai.
Vous m'avez parlé avant qu'on commence à enregistrer cette émission de votre découverte du jazz et du blues. Et ça s'est passé ici aussi, évidemment, comme la plus grande partie de votre vie, en fait. Hein.
Da quel giorno lì, sentì una musica nuova, perché noi, qui non c'era ancora il blues.
Oui, en fait, monsieur Lucchesi m'a découverte du jazz a eu lieu ici sur cette place. J'étais comme toujours chez moi et des soldats américains avaient mis des tentes, avaient planté des tentes ici sur la place entre ma maison et la tour Pinchet, là où nous étions. Et un soir, c'était vraiment tout très suggestif, très magique, la lumière du coucher du soleil. Ils étaient là, ils bavardaient et disons, les bavardages s'est transformé en musique. Ils ont commencé à taper sur des boîtes en laiton et l'un parmi eux, un noir avec sa voix profonde, il a commencé à chanter une mélodie et les autres l'ont suivi en faisant comme un chœur qui reprenait les notes. Et ça m'a vraiment touchée parce que j'avais dans mes oreilles la musique italienne que l'on faisait à l'époque et qui imitait un peu la musique américaine, donc c'était des sons tout à fait différents. Donc je me suis approchée du jazz, je l'ai toujours suivi dans ma vie, même si aujourd'hui je préfère vraiment les jazz classiques et pas, comment dire, les transformations, les expérimentations que l'on fait aujourd'hui. Mais je l'ai découvert ici.
And I hear me just, I whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di da dap da 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 da. Sotto le stelle del jazz,
un uomo scimmio cammina. O forse balla chissà, do da do da do da, do da ti da do da. 2000 enigmi nel jazz, e non si capisce il motivo. Nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche sotto la luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da do da, and I hear me jazz. I whisper all of you, I whisper all of you. Yes.
Quand Monsieur Luquez il travaillait sur la place, il travaillait à l'intérieur du grand bâtiment jaune qui se trouve au milieu des deux maisons où il a vécu quand il était enfant. Donc chaque jour, moi aussi je suis émue, il s'est rendu ici pour son travail. Aujourd'hui, on a transformé les bureaux dans un siège pour faire des expositions et donc on les a transférés sur une petite place à côté. Mais lui, il venait ici chaque jour.
En fait, vous n'avez jamais quitté ce corps de bâtiment? Monsieur Lucchesi.
In realtà, quindi non ha, lei non ha mai lasciato questo immobile per viverci, cioè per lavorarci.
È vero.
Sauf aujourd'hui.
No, e andai un po' in pensione, sono andato in campagna quasi. a Cascina.
Pour la retraite, j'ai choisi la campagne à côté de Pise, donc j'ai abbandonné le centre-ville.
Mais vous revenez souvent ici?
Insomma, non tanto. Sì, io ci vengo, ma ci vengo come un turista, vengo a fare una giratina, guardo, vedo che non vado più nell'ufficio.
En fait, aujourd'hui, je ne retourne plus ici pour aller dans les bureaux, tout ça, mais je reviens ici un peu comme un touriste pour me faire plaisir à regarder les monuments.
È cambiato tutto, le persone, ci si lavora male ora, ci si...
Les choses ont beaucoup changé, c'est quelque chose qui le touche vraiment beaucoup. Il a perdu ses points de repère, mais malheureusement, eux aussi, ils l'ont un peu abandonné, si vous voulez, malgré tout ce qu'il a fait pour cette place.
Donc là, on est devant y a ce bâtiment jaune, ocre, magnifique, qui s'appelle Opera Primaziale Pisana. Il y a une plaque de marbre qui nous dit ça. Opa, Uffici, ça veut dire les bureaux, numéro 17. Alors vous étiez au numéro combien ? 13, quelque chose comme ça. Ça, c'est la première maison.
Ah, questo. Era un numéro 6, non ha cambiato i numeri. C'era, mi pare 6, era. Vediamo un po'.
Quand j'habitais ici, je crois qu'il y avait le numéro 6. Ils ont changé les numéros.
Alors, non seulement il y a l'orage, mais en plus, il y a des avions qui passent. Alors, è questa?
Questa era la porta d'ingresso a casa sua. Ecco, è cambiato un po' tutto, perché questa porta non c'era, no? Era tutto molto più rustico, era tutto.
Aujourd'hui nous sommes devant le numéro 14, le numéro a changé, mais l'entrée aussi a changé, la porte que vous voyez aujourd'hui n'était pas là, tout était beaucoup plus simple.
Là, on va juste se réfugier peut-être au numéro 17.
L'uffici.
Ah, on va entrer un petit peu.
Sì.
C'est bon, on peut rester un petit moment ici ?
Problème.
D'accord. Parce que là, comme ça, on échappe à la pluie. On est juste dans cette entrée. Ici, là, ce qu'on vient de faire avec vous, Monsieur Lucchesi, passer la porte pour entrer dans le couloir, ça, vous l'avez fait des dizaines et des dizaines de fois.
Milliers de fois.
On voit, hein, vous l'avez fait avec naturel, vous avez l'habitude.
C'est vrai, un peu comme casa mia.
C'était un peu comme être chez moi.
Et là, ça va? Comment vous vous sentez?
Mais un peu de nostalgie, un pochino de nostalgie, et sì. Perché c'è l'orgoglio, no? Perché ho avuto dei momenti brutti di contrasto, no? E quindi ero contento di essere uscito. E invece ora quando vengo mi sento sono contento, insomma, di rivederle.
Je suis très content, mais j'ai aussi beaucoup de nostalgie. En fait, quand j'ai quitté l'œuvre en tant que secrétaire adjoint, donc c'était la charge l'une des plus importantes, en fait, était l'adjoint du secrétaire général. J'ai quitté, mais disons, pas avec des beaux rapports. Les choses avaient beaucoup changé et donc je suis partie, ça m'a donné du mal. Donc quand je retourne ici, j'ai de la nostalgie, mais j'ai revu aussi ces moments un peu difficiles. Mais en tout cas, je suis contente, c'est beau.
Il a les yeux qui brillent et puis il regarde un peu autour de lui, le plafond en bois, avec ses poutres, ses peintures anciennes, le sol noir et blanc, des dalles de marbre, ses portes en bois et puis ses bas-reliefs au mur. Ça c'est où on se trouve, c'est juste l'entrée hein, de ce qui est devenu maintenant un musée, qui était à l'époque le bureau de Monsieur Lucchesi. Alors, Giampiero Lucchesi, on est ici dans le bureau où vous avez travaillé pendant des années et des années, entre les deux maisons où vous avez grandi. On parlait tout à l'heure de la période de la guerre, c'est une période qui était marquante pour vous. Vous aviez quel âge à ce moment-là?
Quand la guerre a commencé nel 40, j'avais 9 ans, et poi è finita quando avevo 13, quindi sono 4 anni di guerra.
En fait, la guerre a commencé en 1940, quand j'avais 9 ans, et elle a fini, terminée en 1944, j'en avais 13-14. Donc j'ai vécu toutes les années des bombardements. Et Pise n'a pas du tout eu de chance, parce qu'elle était une ville où est passé, s'est arrêté longtemps les fronts. Donc elle a été beaucoup bombardée et endommagée. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Je me souviens de ça, des morts dans la rue. Et c'était aussi dangereux pour nous que de sortir dans la rue, parce que les Allemands avaient besoin d'hommes pour travailler. Et donc même ceux qui n'étaient pas, disons, bons comme soldats, aptes comme soldats, étaient pris pour faire les travaux. Donc ça m'a vraiment marqué, l'effet de sortir dans les rues et de voir tous les bâtiments pratiquement détruits, notamment dans la partie sud, et les morts dans la rue.
Et la libération, alors? Vous vous souvenez de ça, la fin de la guerre?
Si. Una cosa incredibile.
Vous étiez où, vous, à ce moment-là? Vous faisiez quoi?
Una giornata, quella che ho descritto.
A
Tricolli.
Mm-hmm.
Era a Tricolli. E quel giorno si parte con mio padre, lui metteva. Era la prima volta che usciva all'aperto, era nascosto.
En fait, le jour de la libération, il vivait à la campagne. Son père l'avait déjà rejoint. Et dès qu'ils ont pu, ils ont essayé de rentrer en ville. Ils n'ont pas pu le faire à travers, disons, du chemin qui est arrivé ici de la campagne, de la porte à Lucca. Et donc, ils ont fait le tour de la place et ils sont entrés par la porte à Nuova, qui en fait aujourd'hui est l'entrée principale à la place de la cathédrale. Giampiero di là, il avait des soldats qui ont compris la situation et nous ont laissé entrer. Et mon père, il s'est tout de suite dirigé vers le cimetière monumental parce qu'on avait appris qu'elle avait été bombardée. Et là, les toits du cimetière étaient en plomb, donc les plombs avaient complètement fondu sur la charpente en bois, tout était sur les sols, et on a pu voir à travers des poutres qu'on avait mis comme barrière devant la porte d'entrée, la situation à l'intérieur, et depuis ce qu'il m'a raconté, donc c'est vraiment la chose qui l'a le plus touché, son père et lui. C'est quelque chose qui lui est resté vraiment dedans, cette richesse et patrimoine complètement détruit. Avant même d'arriver à la maison, donc la première halte a été le cimetière.
Solo salutare. Complimenti, la rega sempre così.
Si, insomma.
Va bene così.
Alors qu'on est là dans l'entrée des bureaux, des anciens bureaux de la tour, qui est devenu aujourd'hui un musée, Uffizi. Il y a des gens qui passent, qui vous saluent. Évidemment, vous connaissez un peu, vous êtes chez vous là.
Grazie degli uffici, quindi evidentemente tutti vi conoscono, lei conosce tutti, e quindi è tutto un salutare.
Salutate.
Nous on va gentiment monter en haut de la tour avec Mirko.
Sì, allora faccio una buona salita.
Vous y allez plus, hein?
Non. Duro fatica a casa mia. Quando non c'è, si guasta l'ascensore, arrivo.
Quand chez moi l'ascenseur ne marche pas, je me fatigue à monter 3 étages pour rentrer dans mon appart, donc pas à la tour.
Donc la tour, on oublie. Combien de marches? Vous savez exactement par cœur combien il y a de marches?
294.
294.
294 marches. On va aller monter, nous, courageusement, malgré la pluie. Merci beaucoup, monsieur Lucchesi, d'avoir été là. Vous avez écrit plein de livres. Pour les gens qui lisent l'italien, il y a beaucoup de livres qui ont été publiés par vous. Sur Pise.
Et notamment, il y en a un. Bon, votre émission, c'est Bon Baiser de Pise. Et M. Lucchesi a écrit mes salutations de Pise et encore des salutations de Pise. Donc, c'est un recueil des cartes postales.
Souvenirs de la ville de Pise.
L'ultima cosa è questo almanacco, non? non glielo posso dare perché prima di tutto costa 300 euro e secondariamente perché pesa 10 kg di carta.
Ma dernière œuvre, un almanach qui coûte 300 euros et qui pèse 10 kilos parce que c'est 4 tomes. Donc j'aimerais beaucoup vous l'offrir, mais c'est un peu difficile.
Trop lourd pour moi, surtout pour monter les 294 marches. Bon, grazie mille, merci beaucoup. Vous savez dire bon baiser de Pise?
Bon baiser?
De Pise.
De Pise?
Voilà.
Baiser ou un baciare?
Si, infatti.
Et alors?
Tanti baci da Pise.
Ah! Bon baiser de la Pise.
Super.
Parfait.
En voyage, sans bagage, que peut-on rêver de mieux? En lâchant mon ancrage, j'inaugure l'audacieux. En voyage, sans bagage,
Ok, entrée de la tour. Alors, c'est bizarre parce que c'est déjà penché le sol et ça glisse, attention.
C'est en marbre.
Donc là, on a retrouvé Mirko. On monte.
C'est déjà penché.
C'est une drôle d'impression, hein, parce que franchement.
On précise qu'il est midi et demi et que l'on n'a pas encore fait l'apéritif. Donc c'est vraiment penché, c'est pas nous qui.
Non, mais on pourrait penser. Mais pourtant, on vient de boire un café. Avant de rentrer dans cette tour, et c'est une vraiment très drôle d'impression parce que ça devrait être droit, mais le sol est penché, donc on est en constant déséquilibre. Là, on est du côté haut de la tour, hein. Et on penche un peu en avant quand on essaye de rester debout normalement. Donc là, on a un panneau Galileus Galileis, Galilée. Donc après, il y a quelque chose d'écrit en latin. Qui nous raconte, j'imagine, qu'il a fait une expérience ici.
Experimentis est summa actori.
Super gravium corporum lapsu institutis legibus motus detectis. Alors, ça doit vouloir dire qu'il a fait cette expérience en lançant deux objets du haut de la tour, un lourd, un léger, et qu'il a découvert que les deux arrivaient en bas de la tour en même temps. Ce qui voudrait dire qu'un objet lourd tombe aussi vite qu'un objet léger, ce qui est le cas. On va faire l'expérience. On va tester.
On va
294
tester.
Marches, il a dit, hein, Giampiero Lucchesi.
294 marches.
On va pas les compter.
C'est parti pour 294. On n'est pas encore au bout de nos peines. Hein. Là, on vient de monter un seul étage.
Ouais, je pense qu'on a dû faire 10 marches sur les 294. 284.
Thank you.
Oh, c'est sport, hein. C'est Nicolas Hulot de...
Alors...
Ça y est, on est en haut, là.
On est en haut.
Allez, plus que 4 marches. Une.
Au cloche.
Voilà.
Au sommet de la tour, donc, il y a un drapeau de Pise, qui est un drapeau rouge à croix blanche, mais il n'est pas pareil que le drapeau suisse, parce que c'est une croix avec des pattes. Et
il n'est pas carré, le drapeau.
Il n'est pas carré non plus. Et ma science est incapable de vous dire quel type de croix c'est.
En tout cas, c'est une croix avec des bouts évasés. Et là, on est entouré, donc on est au milieu de la tour qui est un peu octogonale, je crois. 1, 2, 3, 6, non, hexagonale. Une tour hexagonale avec 1, 2, 3, 4, 5, 5 cloches. Puis normalement, à la place de la 6e, ben, il y a l'entrée. C'est les mêmes cloches que sonnait le grand-père de Gianpiero Lucchesi, de grosses, grosses cloches avec des écritures, des gravures, il y a un Christ dessus. Et donc il pleut sur nos têtes puisque la tour est creuse.
Ouais, c'est la deuxième fois de ma vie que je monte sur la tour et la première fois où il pleut. Donc ça va, j'ai un taux de 50%. Et c'est bien parce qu'on voit vraiment donc, ben, tous les environs de Pise, toute la campagne autour de Pise. Jusqu'aux collines qui de l'autre côté donnent sur Lucca. Lucca, une ville ennemie de Pise. Bah, comme il faut le savoir, bah, la Toscane a toujours été au Moyen-Âge et après, jusqu'à l'unité d'Italie finalement, la Toscane a toujours été divisée en plusieurs micro-états. Et donc du coup, il y avait Florence qui était quand même très importante avec les Medici, les Médicis, comme on dit en français, qui a toujours fait la guerre à Sienne, les fameuses guerres entre les Ghibellini, enfin les Gibelins et les autres, dont le nom m'échappe. Les autres villes également, Lucca, qui était un grand-duché, Lucca, et Pise. Pise qui a été pendant plus longtemps une république. Il y a des collines entre ces deux villes, mais elles se sont, enfin, en permanence fait la guerre. Et même maintenant, on dit comme ça traditionnellement, mais c'est vrai que pour certaines familles, mais tu peux pas te fiancer, tu peux pas te marier avec une fille de Lucca parce que ça va pas. C'est l'ennemi, quoi.
C'est les Capulet et les Montaigu, quoi. Et c'est Roméo et Juliette. Ouais. En fait, on est monté sur cette tour finalement. Pourquoi ? Pour faire l'expérience de Galilée.
Donc on va tenter l'expérience. On va jeter deux objets de poids différents et on va voir s'ils vont tomber et atterrir en même temps surtout.
Alors je préconise de les lancer évidemment du côté où la tour est plus penchée, comme ça il y a un angle et les objets risquent pas de se cogner contre la tour. On va aller de
du
ce côté-là.
Côté
je te rejoins en bas.
Parfait.
Tu te mets là en bas puis je te fais signe quand je lance.
Exact.
On va essayer.
Un bonbon, une cigarette, c'est un poids différent. Hein.
Ouais, la cigarette, elle est extrêmement légère, je te rends ça.
Ok, à toutes.
À tout de suite. Bon, alors, je vois Mirko tout petit là en bas qui vient d'arriver. Alors, il faut que je tienne mon micro d'une main et de l'autre main, je vais lancer, je la tends en dehors de la tour et je vais lancer une cigarette et un bonbon. C'est bon ? T'es prêt ? Ouais ? 1, 2, 3. Il tombe beaucoup plus vite le bonbon. Alors ? Voilà, je suis sortie de la tour, je retrouve Mirko en bas. Alors ?
Bon, on a deux constats. Le premier, c'est que nous sommes de piètres scientifiques. Et le deuxième, c'est qu'une cigarette a plus de prise au vent qu'un bonbon. Et que Galilée a sûrement fait son expérience un jour où il n'y avait pas de vent du tout.
Et pas de pluie, j'imagine. Donc le bonbon est arrivé avant ?
Donc le bonbon est arrivé avant. Oui, oui. Non, on voyait la cigarette onduler comme ça, comme une feuille morte à l'automne. Mmh. Et voilà. Donc, expérience ratée.
Échec total. Je pense qu'on a bien mérité d'aller manger. un bon plat toscan. Parce que justement, demain, on va parler cuisine toscane. Donc, on va aller tester pour vous, puis on vous en parle demain. Enfin, vous pourrez nous entendre manger demain. Je pense que ça vous fera plaisir.
Et c'est donc l'occasion de dire buon appetito et baci da Pisa.
Bon baiser de Pise. Mirko, à demain.
À demain.
Merci encore à tout le monde, tous ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission. C'est Monique Cortési, qui est notre assistante de production, avec Esme Thiaré. Il y a Dani Sulam, qui s'occupe de notre site internet. Jean-Baptiste Roumins, qui choisit les musiques de l'émission. C'est Jean-Daniel Motet, qui réalise ses reportages. Je crois que j'ai oublié personne. Merci d'écouter la première. Il est 14h.